Tout a commencé par une exposition. Ça se passe à Montpellier, au musée d'art contemporain, au MoCo. L'expo s'appelle Entre les lignes.
Entre les lignes.
Entre les lignes, voilà. Donc, ils vous l'ont peut-être déjà expliqué, on a fait une exposition comme si c'était un livre.
Cette expo nous a paru intéressante. Elle nous a permis de découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Et très rapidement, cela nous a surtout permis de penser à notre propre rapport au livre.
Et c'est précisément ça le sujet de notre émission.
Mon rapport au livre. Je ne sais pas bien quoi dire sur ce sujet-là. J'aime les livres, je les aime bien, mais je ne sais pas si cela est réciproque. Quand j'étais petite, je lisais un peu. J'aimais les histoires, les idées, les voyages. En primaire, mon prof me donnait des livres, puis les livres au collège, les livres du lycée. Je n'aimais pas trop lire. Moi, ma plus grande joie, c'est de finir les livres, de savoir que là, les histoires, je les garde, les idées, je m'en empare. Mais je ferme le livre, car déjà, je lis très lentement, et sincèrement, ça me désespère, ça me fatigue. Je lis, je relis, je veux comprendre tout, mais il y a trop de mots défilant devant mes yeux. L'année dernière, j'ai commencé à lire des livres d'un certain auteur qui semblait me comprendre, qui disait des choses que j'aimais bien, qui me faisait penser, rire, pleurer. Et ça, c'était magique. J'ai décidé que j'aimais ces livres qui me faisaient oublier que je lisais. Les mots n'étaient plus des mots, je n'étais plus là. J'aime m'envoler, m'évader, me perdre, mais très souvent encore, les livres me désespèrent.
Dans mon livre idéal, à chaque page, je gagne 190 millions d'euros. Dans mon livre idéal, toutes les deux pages, j'ai une astuce qui me permet à 100% de me faire des amis. Dans mon livre idéal, je peux avoir tous les produits gratuits. Dans mon livre idéal, je peux voyager où j'ai envie. Mon livre idéal fait la taille d'une cacahuète. Je peux le mettre dans ma poche.
Si je venais à vous parler des livres, qu'est-ce que ça vous évoque et pourquoi ?
Ben, plaisir, c'est mon métier, je suis prof de français.
C'est l'expression écrite de ce que l'on pense.
Ça m'évoque du temps pour moi. Ouais, ça m'évoque un temps un peu volé, un peu suspendu.
Ça m'évoque le voyage, l'évasion, la détente, le savoir, l'apprentissage.
Moi, pour être honnête, je lis pas beaucoup de livres, vraiment, je lis pas. Après, moi, je suis vraiment pas livre, Je préfère les adaptations en film, moi.
Moi, pour être honnête aussi, j'ai juste lu Jules Verne et Harry Potter. Donc, je dirais s'évader. On s'évade dans la lecture, dans l'histoire, en général.
Pouvez-vous nous raconter une anecdote en rapport avec un livre ?
J'ai déjà eu une ouverture avec point de suture à cause d'un livre qui est tombé d'une fenêtre.
Moi, je pense qu'un jour, j'avais lu un extrait de livre ou un synopsis et que quelques jours plus tard, je pense qu'il y avait une partie du livre qui m'était arrivée. Donc, ça m'avait un peu... percuté l'esprit, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Je me souviens qu'un jour, j'ai lu L'écume des jours de Boris Vian et j'avais genre 12 ans. Et après, j'ai refusé de lire pendant des années parce que je me suis dit, je lirai jamais un truc aussi bien que ça.
C'est grâce à un livre en particulier de Rimbaud que je me suis dit que c'était ça que je voulais faire toute ma vie, étudier la littérature. Donc pour moi, c'est vraiment un truc un peu de destin, les livres.
Est-ce que vous avez déjà été, à contrario, fâché avec les livres ?
Fâché par rapport au livre, c'est pas le livre en particulier, c'est comment on nous fait approcher le livre et qu'on nous force à aimer les livres. Et du coup, ça m'a jamais plu de lire par rapport à l'éducation nationale, tout comme ça. Oui. Qu'on te force à lire des livres que le thème t'intéresse pas du tout, mais tu dois le faire.
Moi, j'ai déjà été déçu par la fin. Du coup, ça m'avait énervé.
Ouais, moi, c'est surtout le fait que je pensais qu'il y avait une fin. Enfin, je pensais cette fin-là, mais c'était pas du tout ce que l'écrivain il voulait nous faire ressentir. Donc, ça m'avait un peu énervé.
J'aimais pas la littérature qu'on nous faisait lire. J'étais pas un grand lecteur du tout, donc je suis toujours pas aujourd'hui, mais j'aimais pas être forcé à lire. Et ça me posait problème, donc je le faisais à contre-cœur.
Et pour des jeunes qui auraient du mal à lire, enfin vous, c'est quoi que vous avez le plus conseillé à des jeunes qui ont du mal à lire ?
Je crois que Harry Potter, ça m'a fait aimer la lecture. Et ensuite, Le Monde de Sophie, que j'ai adoré et qui m'a vraiment donné goût à la lecture. Pour le plaisir, quoi, et après, voilà, j'ai continué.
On peut commencer par de la science-fiction. Il y a des bons livres de science-fiction pour commencer à rentrer dans des mondes un peu différents. Et après, on peut aller vers des classiques, mais des trucs un peu de cap et des fées, genre Alexandre Dumas, en plus, en ce moment, il y a Les Trois Mousquetaires, ça peut être pas mal. Il y a plein d'actions, donc j'irai plutôt vers soit science-fiction, soit livre d'aventure.
Est-ce que plus jeune, par exemple au collège ou au lycée, c'était compliqué de lire des livres ?
Comme tout gamin, j'ai lu des choses, les Trois Mousquetaires, des romans de Jules Verne, qui sont passionnants et qui m'ont pris. Et donc, et depuis, je n'ai jamais arrêté de lire.
C'est, voilà. C'est des livres que vous conseillez pour, par exemple, des jeunes qui auraient du mal à se lancer dans la lecture ?
Oui, je les conseille, mais j'avoue que c'est assez compliqué de faire lire ce genre de livres aujourd'hui à des jeunes. Moi, j'avoue que mes enfants, je n'ai pas réussi.
Et l'objet livre, ça vous évoque quoi ?
Pour moi, c'est précieux. C'est vraiment quelque chose d'un peu précieux et j'ai du mal à voir des livres déchirés ou dans la rue ou au sol. Enfin, c'est vraiment un truc, pour moi, c'est vraiment un objet précieux, en fait.
Et c'est pas si grave de ne pas finir un livre ?
Non, alors non seulement c'est pas si grave, mais d'abord, je pense que c'est la liberté absolue d'un lecteur. Et en plus, moi, j'ai un gros problème, c'est que soit le livre me plaît pas et je ferme et j'y reviens pas, soit le livre me plaît et je dors pas de la nuit.
Bien sûr, en tant que lecteur, nous avons des droits imprescriptibles, selon Daniel Pennac. Nous avons le droit de ne pas lire le livre s'il semble ne pas nous intéresser. Nous avons le droit de sauter des pages pour aller plus loin dans l'histoire et découvrir au plus vite le suspense. Le droit de ne pas finir un livre si au bout de 4-5 chapitres, il ne nous intéresse pas. On a le droit de le relire encore, pour voyager et toujours découvrir de nouveaux indices. Nous avons le droit de lire n'importe quoi, petit ou grand. Nous avons le droit au bovarisme, donc de rêver. Le droit de lire n'importe où, même dans les toilettes. Le droit de grappiller. Le droit de lire à voix haute pour mieux s'imprégner du personnage. Et même le droit de nous taire pour avoir l'histoire en nous.
Et nous, on a une histoire qu'on n'a pas envie de garder en nous. C'est une nouvelle qui s'appelle Matin Brun, qu'on a transformée en audiolivre.
Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste un kleps qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir.
Tu comprends ? Je pouvais pas le faire passer pour un chien brun.
Ben, un labrador, c'est pas trop sa couleur. Mais il avait quoi comme maladie ?
C'est pas la question, c'était pas un chien brun, c'est tout.
Oh mince alors. Comme pour les chats maintenant ?
Oui, pareil.
Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insoutenable. Et que d'après des scientifiques de l'État national, il valait mieux garder les brins. Que des brins.
Tous les tests de sélection prouvent que les chats bruns s'adaptent mieux à notre vie citadine. Qu'ils ont des portées peu nombreuses et qu'ils mangent beaucoup moins.
Ma foi, un chat c'est un chat, et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. La plupart des chefs religieux approuvaient cette mesure. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux.
Prenez, c'est de la pâtée à l'arsenic.
Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est plus gros, ou c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose. Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les brins sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire. On s'était quittés, mais avec cette drôle d'impression. Comme si on s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Quelques temps après, j'ai compris que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Au bar, tout le monde en était resté sur le cul.
Un café, s'il vous plaît.
T'as vu, le journal Le Quotidien ne paraît plus.
Ils ont coulé ? Des grèves ? Une faillite ?
Non, c'est la suite de l'affaire des chiens.
Des brins ?
Oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Tu te rends compte ? Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards.
À trop jouer avec le feu.
Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire.
Mince alors, pour le tiercé, il faudra que j'aille chercher des tuyaux dans les nouvelles brunes, il n'y a plus que celui-là.
Il paraît que côté course et sport, ils tiennent la route.
Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait bien qu'il reste un canard dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après, ça avait été au tour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice. Leurs livres étaient interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot « chien » ou « chat » au moins une fois par volume. Et sûrement pas toujours assorti du mot « brun ». Elle devait bien le savoir tout de même.
Faut pas pousser quand même. Tu comprends, la nation n'a rien à y gagner à accepter qu'on détourne la loi. Et à jouer au chat et à la souris. Brune.
Il avait ajouté « brune » en regardant autour de lui. Au cas où, on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude d'ajouter « brun » ou « brune » à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer. Et puis au moins, on était bien vus et on était tranquille. Un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale des Coupes des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qui débarque avec un nouveau chien. Magnifique, brun, de la queue au museau, avec des yeux marrons.
Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre. Et il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir finalement.
À peine il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. Et gueule que je te gueule, et même brun, je n'obéis ni à mon maître ni à personne. Et Charlie avait soudain compris.
Non, toi aussi ?
Bah oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. Qu'est-ce qu'on avait ri ? Tu parles d'une coïncidence ? Tu comprends, j'ai toujours eu des chats. Il est pas beau celui-ci ?
Magnifique.
Puis on avait allumé la télé, pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Je sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment, et qu'on se sentait en sécurité. Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. La sécurité brune, ça peut avoir du bon. Et puis hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville. Ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie. Le dimanche, chez Charlie, on jouait à la belote. J'avais un pack de bière à la main, c'est tout. On devait taper le carton 2-3 heures tout en grignotant, et là, surprise totale, la porte de son appart avait volé en éclats et deux miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux.
Circuler, circuler, rien à voir.
J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mieux.
Pourtant, son chien était un vrai brun. On l'a bien vu, nous.
Ouais, mais à ce qu'ils disent, c'est que avant, il en avait un noir, pas un brun, un noir.
Avoir eu un chien ou un chat
avant,
non conforme.
Oui, avant.
À quelque époque que ce soit, est un délit.
Le délit maintenant.
C'est même une injure à l'État national.
C'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander aux voisins.
J'ai pressé le pas, une coulée de sueur trempait ma chemise. Parce que si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant, j'avais un chat noir et blanc. Avant, ça alors j'aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait récemment acheté un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit. Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont amené Charlie. Là, ils exagèrent, c'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des proprios de chats et de chiens. J'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi mon chat. Mais comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non! Résister davantage, mais comment ? Eh, ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? On frappe à la porte.
Ouvrez !
Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé. Il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort, j'arrive.
Matin Brun de Franck Pavlov.
Une mise en onde de l'atelier radio de la MDA.
Ce texte a été enregistré par Mathieu dans le rôle du narrateur. Elliot était Charlie. Léo, Lucie, Gilbert, les voisins. Enzo était le scientifique et la police de l'équipe.
Le livre monstre que je déteste serait placé dans mon tiroir. Chaque jour quand je me lève, ce livre devient de plus en plus gros et prend de la place dans mon tiroir. Tous les soirs quand je fais un cauchemar, il vient l'avaler et disparaît et revient. Maintenant je sens dans mon ventre, il est à l'intérieur, je fais une crise, je hurle, je pars en courant.
Alors on va passer à la lecture. Vous avez à chaque fois des phrases ou des items, un truc précis. Je vous propose d'en lire chaque fois un seul. Par exemple, imaginons que tu as trois phrases, tu lis la phrase 1, puis la 1, la 1, la 1, on tourne, la 2, la 2, la 2. Quand vous avez terminé de lire, ou si vous ne voulez pas lire, ou que vous n'avez pas de phrase, vous croisez les bras devant vous. Comme ça, le voisin voisine, il enchaîne. Il n'y a pas de temps mort. On va lire ça vraiment comme une répétition, comme un truc de chorale au théâtre collectif. On y va.
Dans la marge, j'existe, puis je vis.
Dans la marge, je m'entraîne à faire des brouillons d'écriture.
Dans la marge, je fais encore partie de la page.
Dans la marge, je dessine car ça permet de m'évader.
Dans la marge, je suis ce chemin qui me guide.
Dans la marge, je regarde ce qu'il se fait entre les lignes.
Je rage.
Je reprends toutes les premières lettres de la phrase du livre pour voir si ça forme un mot.
Dans la marge, je m'assois.
Je garde tout ce que je veux retenir en le notant quelque part.
Dans la marge, il y a un monde rempli de gourmandises.
Je gribouille jusqu'à ce que j'écrive.
Je subis l'attraction du vide.
Dans la marge, je me pose plus de questions que je n'ai de réponses.
Dans la marge, je gribouille.
Dans la marge, je remplis l'espace qui devrait être vide.
Je parle à personne, je me défoule et j'évite d'y rester.
Dans la marge, j'écoute les histoires qu'on me raconte.
J'ai refait ma naissance et j'aborde à présent une vie de plume. De plume à écrire. Je suis d'une élégance rare, tout d'une rémie je fais. Élancé, imposant, coloré. Mais pourtant, ce bagage esthétique ne pousse pas plus ma maîtresse à m'utiliser. Qu'attend-elle, la poète ? Moi qui croyais que ma joliesse lui insufflerait de l'idée. Maintenant, je m'en poussière. Et je désespère de danser sur des feuilles. Ah, quel supplice pour l'outil de ne point travailler. Mais si ma bien-aimée, ma poétesse, m'a bien appris une chose, c'est que ce n'est point la beauté idyllique qui inspire le poète, le voyant. Mais c'est au contraire peut-être les pires choses. Belle leçon à donner à tous les mauvais poètes.
J'ai refait ma naissance, j'exerce le métier de marque-page. Alors, comment me présenter ? Très simplement, je suis un marque-page. Yannick, le marque-page. Je suis né, enfin plutôt fabriqué, il y a tout juste 11 mois, et je suis déjà salarié, enfin esclave. Je ne suis pas payé. Bon, un marque-page, quoi. Globalement, je peux me décrire, vous l'imaginez, hein, je suis pas très épais, je mesure 0,3 mm d'épaisseur, je mesure 20 cm de longueur, et non, je suis pas timide, je suis juste d'un coloris rouge. Bon, venons-en au point principal, à l'éléphant qui conduit la Twingo. Je parle, oui. Je suis un marque-page avec une conscience. Ça paraît un peu déroutant pour vous, mais ça l'a été pour moi aussi.
Je suis mort, putain, j'ai été réincarné, quoi, hein ? Je suis au paradis ? Waouh, flippant.
Yannick, vous vous êtes réincarné en... marque-page. Au revoir.
J'avoue m'être très rapidement résigné à ce cas, même si ce fut complexe. Ah, et si vous voulez tout savoir sur mon quotidien, ou même mon parcours avant ma prise de parole, parce que j'ai décidé de prendre la parole, j'ai été vendu à un Gilbert Joseph il y a 9 mois, et pendant beaucoup trop de mois, j'ai marqué la page 11 d'un livre, je crois que ça parle d'un petit prince, bon, chiantos quoi. Et donc, il y a un mois, j'ai décidé de m'échapper, de faire le lanceur d'alerte sur mon cas unique. Je me suis procuré un micro, j'ai hacké une fréquence, et voilà que je vous raconte tout ça, j'espère que vous me croirez.
Oui, bon, allez, c'est ça, je change.
Quelle île abritant la ville de... Oui ?
La Tasmanie ?
Oui !
Liste de ce qui m'impressionne dans la culture. Turcual, dansionne un pré. Hic, ce deux liste. C'est un palindrome.
Cédric, la gîte tout courait. C'est oui.
Oui, monsieur.
Oui.
Les gens qui savent tout, qui retiennent les dates, lisent plein de livres, peuvent parler sans arrêt, alors que tu te demandes encore quoi répondre.
Liste de ce qui m'impressionne dans la culture, c'est la première syllabe du mot « culture ».
Liste de choses qui m'impressionnent dans la culture, certains artistes d'art contemporain dont les œuvres tiennent plus de la graine que de la plante.
Ne rien comprendre à une exposition.
Ce qui me fait peur, c'est la façon dont je vais m'y prendre.
Les définitions au coin de la page du livre qui prennent plus de place que le texte.
Un opéra en allemand, de 3 heures, debout, dans le balcon, en haut de l'opéra, et j'ai rien compris.
Liste de choses qui m'impressionnent dans la culture, la vénération qu'on porte à Guillaume Apollinaire.
Les conversations de choses sérieuses.
Payer des livres que je ne lirai pas pour les cours.
Fais ta prière, mon pote.
Dans les mangas, j'aime...
J'adore !
La culture japonaise, la nourriture, les personnages...
Ces maudites cibles se déplacent trop vite.
L'histoire, le paysage, les conventions, le partage, se cosplayer à l'un de ses personnages préférés. Bon, je vous avoue... J'ai un déguisement d'un animé qui s'appelle Spice Family.
La guerre est inévitable.
Il est beaucoup trop tôt pour arrêter de se battre.
Mort.
Le sort du monde dépend de l'endroit où atterrira ce microfilm.
C'est Lloyd, rancheur, grand, espion, et qui part en mission secrète. Sayonara.
Voilà, fin de l'histoire. On vient de tourner la dernière page de notre livre.
Une œuvre radiophonico-littéraire réalisée à l'atelier radio de la MDA par Léo, Elliot, Lucim, Melvin, Gilbert, Julia, Nina, Enzo et Mathieu. Avec l'aide de Manon, Célia et Jean-Jacques, et avec le soutien de Wakadi, on a quelque chose à dire.
Un grand merci à Tatiana, l'animatrice de l'atelier d'écriture,
et au Moko pour sa visite d'entre les lignes.